Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 2, suite et fin. Par le fait, nous passons sans peine du roman d'aujourd'hui à des contes plus ou moins anciens, aux légendes, au folklore, et du folklore à la mythologie, qui n'est pas la même chose, mais qui s'est constituée de la même manière. La mythologie, à son tour, ne fait que développer en histoire la personnalité des dieux. Et cette dernière création n'est que l'extension d'une autre, plus simple, celle des puissances semi-personnelles ou présences efficaces qui sont, croyons-nous, à l'origine de la religion. Ici, nous touchons à ce que nous avons montré être une exigence fondamentale de la vie. Cette exigence a fait surgir la faculté de fabulation. La fonction fabulatrice se déduit ainsi des conditions d'existence de l'espèce humaine. Sans revenir sur ce que nous avons déjà longuement exposé, rappelons que, dans le domaine vital, ce qui apparaît à l'analyse comme une complication infinie est donné à l'intuition comme un acte simple. L'acte pouvait ne pas s'accomplir. Mais s'il s'est accompli, c'est qu'il a traversé d'un seul coup tous les obstacles. Ces obstacles, dont chacun en faisait surgir un autre, constituent une multiplicité indéfinie. Et c'est précisément l'élimination successive de tous ces obstacles qui se présente à notre analyse. Vouloir expliquer chacune de ces éliminations par la précédente serait faire fausse route. Tout s'explique par une opération unique qui est l'acte lui-même dans sa simplicité. Ainsi, le mouvement indivisé de la flèche triomphe en une seule fois des mille et mille obstacles que notre perception, aidée du raisonnement de Zénon, croit saisir dans les immobilités des points successifs de la ligne parcourue. Ainsi, l'acte indivisé de vision, par cela seul qu'il réussit, tourne tout d'un coup des milliers de milliers d'obstacles. Ces obstacles tournés sont ce qui apparaît à notre perception et à notre science dans la multiplicité des cellules constitutives de l'œil, dans la complication de l'appareil visuel, enfin dans les mécanismes élémentaires de l'opération. De même, poser l'espèce humaine, c'est-à-dire le saut brusque par lequel la vie qui évoluait est parvenue à l'homme individuel et social. Du même coup, vous donnez l'intelligence fabricatrice et par suite un effort qui se poursuivra, en vertu de son élan, au-delà de la simple fabrication pour laquelle il était fait, créant ainsi un danger. Si l'espèce humaine existe, c'est que le même acte par lequel était posé l'homme avec l'intelligence fabricatrice, avec l'effort continué de l'intelligence, avec le danger créé par la continuation de l'effort, suscitait la fonction fabulatrice. Celle-ci n'a donc pas été voulue par la nature, et pourtant, elle s'explique naturellement. Si en effet, nous la joignons à toutes les autres fonctions psychologiques, nous trouvons que l'ensemble exprime sous forme de multiplicité l'acte indivisible par lequel la vie a sauté de l'échelon où elle s'était arrêtée jusqu'à l'homme. Mais voyons de plus près pourquoi cette faculté fabulatrice impose ses inventions avec une force exceptionnelle quand elle s'exerce dans le domaine religieux. Elle est là chez elle sans aucun doute. Elle est faite pour fabriquer des esprits et des dieux. Mais comme elle continue ailleurs son travail de fabulation, il y a lieu de se demander pourquoi, opérant encore de même, elle n'obtient plus alors la même créance. On trouverait à cela deux raisons. La première est qu'en matière religieuse, l'adhésion de chacun se renforce de l'adhésion de tous. Déjà, au théâtre, La docilité du spectateur aux suggestions du dramaturge est singulièrement accrue par l'attention et l'intérêt de la société présente. Mais il s'agit d'une société juste aussi grande que la salle et qui dure juste autant que la pièce. Mais que sera-ce si la croyance individuelle est soutenue, confirmée par tout un peuple, et si elle prend son point d'appui dans le passé comme dans le présent? Que sera-ce si le Dieu est chanté par les poètes, logé dans des temples, figuré par l'art? Tant que la science expérimentale ne se sera pas solidement constituée, il n'y aura pas de plus sûr garant de la vérité que le consentement universel. La vérité sera le plus souvent ce consentement même. Soit dit en passant, c'est là une des raisons d'être de l'intolérance. Celui qui n'accepte pas la croyance commune l'empêche, pendant qu'il nie, d'être totalement vrai. La vérité ne recouvrera son intégrité que s'il se rétracte ou disparaît. Nous ne voulons pas dire que la croyance religieuse n'ait pu être, même dans le polythéisme, une croyance individuelle. Chaque Romain avait un genius attaché à sa personne, mais il ne croyait si fermement à son génie que parce que chacun des autres Romains avait le sien, et parce que sa foi personnelle sur ce point lui était garantie par une foi universelle. Nous ne voulons pas dire non plus que la religion ait jamais été d'essence sociale plutôt qu'individuelle. Nous avons bien vu que la fonction fabulatrice, innée à l'individu, a pour premier objet de consolider la société. Mais nous savons qu'elle est également destinée à soutenir l'individu lui-même et que d'ailleurs, l'intérêt de la société est là. À vrai dire, individu et société s'impliquent réciproquement. Les individus constituent la société par leur assemblage. La société détermine tout un côté des individus par sa préfiguration dans chacun d'eux. Individus et société se conditionnent donc circulairement. Le cercle voulu par la nature a été rompu par l'homme le jour où il a pu se replacer dans l'élan créateur, poussant la nature humaine en avant au lieu de la laisser pivoter sur place. C'est de ce jour que date une religion essentiellement individuelle, devenue par là, il est vrai, plus profondément sociale. Mais nous reviendrons sur ce point. Disons seulement que la garantie apportée par la société à la croyance individuelle en matière religieuse suffirait déjà à mettre hors de pair ces inventions de la faculté fabulatrice. Mais il faut tenir compte d'autres choses encore. Nous avons vu comment les anciens assistaient impassibles à la genèse de tel ou tel dieu. Désormais, ils croiraient en lui comme en tous les autres. Ce serait inadmissible si l'on supposait que l'existence de leur dieu était de même nature pour eux que celle des objets qu'ils voyaient et touchaient. Elle était réelle, mais d'une réalité qui n'était pas sans dépendre de la volonté humaine. Les dieux de la civilisation païenne se distinguent en effet des entités plus anciennes, elfes, gnomes, esprits, dont ne se détacha jamais la foi populaire. Celle-ci était issue presque immédiatement de la faculté fabulatrice qui nous est naturelle, et elles étaient adoptées comme elles avaient été produites, naturellement. Elles dessinaient le contour exact du besoin d'où elles étaient sorties. Mais la mythologie, qui est une extension du travail primitif, dépasse de tous côtés ce besoin. L'intervalle qu'elle laisse entre lui et elle est rempli par une matière dans le choix de laquelle le caprice humain a une large part et l'adhésion qu'on lui donne s'en ressent. C'est toujours la même faculté qui intervient et elle obtient, pour l'ensemble de ses inventions, la même créance. Mais chaque invention prise à part est acceptée avec l'arrière-pensée qu'une autre eût été possible. Le panthéon existe indépendamment de l'homme, mais il dépend de l'homme d'y faire entrer un dieu et de lui conférer ainsi l'existence. Nous nous étonnons aujourd'hui de cet état d'âme. Nous l'expérimentons pourtant en nous, dans certains rêves, où nous pouvons introduire à un moment donné l'incident que nous souhaitons. Il se réalise par nous dans un ensemble qui s'est posé lui-même, sans nous. On pourrait dire de même que chaque dieu déterminé est contingent, alors que la totalité des dieux, ou plutôt le dieu en général, est nécessaire. En creusant ce point, en poussant aussi la logique plus loin que ne l'ont fait les anciens, on trouverait qu'il n'y a jamais eu de pluralisme définitif que dans la croyance aux esprits, et que le polythéisme proprement dit, avec sa mythologie, implique un monothéisme latent, où les divinités multiples n'existent que secondairement comme représentatives du divin. Mais les anciens auraient tenu ces considérations pour accessoires. Elles n'auraient d'importance que si la religion était du domaine de la connaissance ou de la contemplation. On pourrait alors traiter un récit mythologique comme un récit historique et se poser, dans un cas comme dans l'autre, la question d'authenticité. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre eux, parce qu'ils ne sont pas du même ordre. L'histoire est connaissance, la religion est principalement action. Elle ne concerne la connaissance, comme nous l'avons maintes fois répété, que dans la mesure où une représentation intellectuelle est nécessaire pour parer au danger d'une certaine intellectualité. Considérer à part cette représentation, la critiquer en tant que représentation, serait oublier qu'elle forme un amalgame avec l'action concomitante. C'est une erreur de ce genre que nous commettons quand nous nous demandons comment de grands esprits ont pu accepter le tissu de puérilité et même d'absurdité qu'était leur religion. Les gestes du nageur paraîtraient aussi ineptes et ridicules à celui qui oublierait qu'il y a de l'eau, que cette eau soutient le nageur et que les mouvements de l'homme, la résistance du liquide, le courant du fleuve, doivent être pris ensemble comme un tout indivisé. La religion renforce et discipline. Pour cela, des exercices continuellement répétés sont nécessaires, comme ceux dont l'automatisme finit par fixer dans le corps du soldat l'assurance morale dont il aura besoin au jour du danger. C'est dire qu'il n'y a pas de religion sans rites et cérémonies. À ces actes religieux, la représentation religieuse sert surtout d'occasion. Ils émanent sans doute de la croyance, mais ils réagissent aussitôt sur elle et la consolident. S'il y a des dieux, il faut leur vouer un culte. Mais du moment qu'il y a un culte, c'est qu'il existe des dieux. Cette solidarité du dieu et de l'hommage qu'on lui rend fait de la vérité religieuse une chose à part, sans commune mesure avec la vérité spéculative et qui dépend, jusqu'à un certain point, de l'homme. À resserrer cette solidarité tendent précisément les rites et cérémonies. Il y aurait lieu de s'étendre longuement sur eux. Disons seulement un mot des deux principaux, le sacrifice et la prière. Dans la religion, que nous appellerons dynamique, la prière est indifférente à son expression verbale. C'est une élévation de l'âme qui pourrait se passer de la parole. À son plus bas degré, d'autre part, elle n'était pas sans rapport avec l'incantation magique. Elle visait alors, sinon à forcer la volonté des dieux et surtout des esprits, du moins à capter leur faveur. C'est à mi-chemin entre ces deux extrémités que se situe ordinairement la prière, telle qu'on l'entend dans le polythéisme. Sans doute, L'Antiquité a connu des formes de prière admirables, où se traduisait une aspiration de l'âme à devenir meilleure. Mais ce furent là des exceptions, et comme des anticipations d'une croyance religieuse plus pure. Il est plus habituel au polythéisme d'imposer à la prière une forme stéréotypée, avec l'arrière-pensée que ce n'est pas seulement la signification de la phrase, mais aussi bien la consécution des mots avec l'ensemble des gestes concomitants qui lui donnera son efficacité. On peut même dire que plus le polythéisme évolue, plus il devient exigeant sur ce point. L'intervention d'un prêtre est de plus en plus nécessaire pour assurer le dressage du fidèle. Comment ne pas voir que cette habitude de prolonger l'idée du Dieu une fois évoquée, en paroles prescrites et en attitude prédéterminée, confère à son image une objectivité supérieure. Nous avons montré, jadis, que ce qui fait la réalité d'une perception, ce qui la distingue d'un souvenir ou d'une imagination, c'est avant tout l'ensemble des mouvements naissants qu'elle imprime au corps et qui la complète par une action automatiquement commencée. Des mouvements de ce genre pourront se dessiner pour une autre cause. Leur actualité refluera aussi bien vers la représentation qui les aura occasionnées et la convertira pratiquement en chose. Quant au sacrifice, c'est sans doute d'abord une offrande destinée à acheter la faveur du Dieu ou à détourner sa colère. Il doit être d'autant mieux accueilli qu'il a plus coûté et que la victime a une plus grande valeur. C'est probablement ainsi que s'explique en partie l'habitude d'immoler des victimes humaines, habitude qu'on trouverait dans la plupart des religions antiques, peut-être dans toutes si l'on remontait assez haut. Il n'est pas d'erreur ni d'horreur où ne puisse conduire la logique quand elle s'applique à des matières qui ne relèvent pas de la pure intelligence. Mais il y a autre chose encore dans le sacrifice. Sinon, l'on ne s'expliquerait pas que l'offrande ait nécessairement été animale ou végétale, presque toujours animale. D'abord, on s'accorde généralement à voir les origines du sacrifice dans un repas que le dieu et ses adorateurs étaient censés prendre en commun. Ensuite et surtout, le sang avait une vertu spéciale. Principe de vie, il apportait de la force au Dieu pour le mettre à même de mieux aider l'homme, et peut-être aussi, mais c'était une arrière-pensée à peine consciente, pour lui assurer plus solidement l'existence. C'était comme la prière, un lien entre l'homme et la divinité. Ainsi, le polythéisme, avec sa mythologie, a eu pour double effet d'élever de plus en plus haut les puissances invisibles qui entourent l'homme et de mettre l'homme en relation de plus en plus étroite avec elles. Coextensif aux anciennes civilisations, il s'est grossi de tout ce qu'elles produisaient, ayant inspiré la littérature et l'art, et reçu d'eux plus encore qu'il ne leur avait donné. C'est dire que le sentiment religieux dans l'Antiquité a été fait d'éléments très nombreux, variables de peuple à peuple, mais qui étaient tous venus s'agglomérer autour d'un noyau primitif. À ce noyau central, nous sommes attachés parce que nous avons voulu dégager des religions antiques ce qu'elles avaient de spécifiquement religieux. Telle d'entre elles, celle de l'Inde ou de la Perse, s'est doublée d'une philosophie. Mais philosophie et religion restent toujours distinctes. Le plus souvent, en effet, la philosophie ne survient que pour donner satisfaction à des esprits plus cultivés. La religion subsiste dans le peuple tel que nous l'avons décrite. La même, où le mélange se fait, les éléments conservent leur individualité. La religion aura des velléités de spéculer. La philosophie ne se désintéressera pas d'agir. Mais la première n'en restera pas moins essentiellement action et la seconde, par-dessus tout, penser. Quand la religion est réellement devenue philosophie chez les anciens, elle a plutôt déconseillé d'agir et renoncé à ce qu'elle était venue faire dans le monde. Était-ce encore de la religion? Nous pouvons donner aux mots le sens que nous voulons, pourvu que nous commencions par le définir. Mais nous aurions tort de le faire quand, par hasard, nous nous trouvons devant un mot qui désigne une découpure naturelle des choses. Ici, nous devons, tout au plus, exclure de l'extension du terme tel ou tel objet qu'on y aurait accidentellement compris. C'est ce qui arrive pour la religion. Nous avons montré comment on donne ordinairement ce nom à des représentations orientées vers l'action et suscitées par la nature dans un intérêt déterminé. On a pu, exceptionnellement, et pour des raisons qu'il est facile d'apercevoir, étendre l'application du mot à des représentations qui ont un autre objet. La religion n'en devra pas moins être définie conformément à ce que nous avons appelé l'intention de la nature. Nous avons maintes fois expliqué ce qu'il faut entendre ici par intention, et nous nous sommes longuement appesantis, dans le présent chapitre, sur la fonction que la nature avait assignée à la religion. Magie, culte des esprits ou des animaux, adoration des dieux, mythologie, superstition de tout genre, paraîtront très complexes si on les prend un à un. Mais l'ensemble en est fort simple. L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l'espoir de réussir et la crainte d'échouer. C'est le seul qui se sente sujet à la maladie, et le seul aussi qui sache qu'il doit mourir. Le reste de la nature s'épanouit dans une tranquillité parfaite. Plantes et animaux ont beau être livrés à tous les hasards, ils ne s'en reposent pas moins sur l'instant qui passe, comme ils le feraient sur l'éternité. De cette inaltérable confiance, nous aspirons à nous quelque chose dans une promenade à la campagne d'où nous revenons apaisés. Mais ce n'est pas assez dire. De tous les êtres vivant en société, l'homme est le seul qui puisse dévier de la ligne sociale en cédant à des préoccupations égoïstes quand le bien commun est en cause. Partout ailleurs, l'intérêt individuel est inévitablement coordonné ou subordonné à l'intérêt général. Cette double imperfection est la rançon de l'intelligence. L'homme ne peut pas exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain, qui éveille sa crainte et son espérance. Il ne peut pas réfléchir à ce que la nature lui demande en tant qu'elle a fait de lui un être sociable, sans se dire qu'il trouverait souvent son avantage à négliger les autres, à ne se soucier que de lui-même. Dans les deux cas, il y aurait rupture de l'ordre normal, naturel. Et pourtant, c'est la nature qui a voulu l'intelligence, qui l'a mise au bout de l'une des deux grandes lignes de l'évolution animale, pour faire pendant à l'instinct le plus parfait, point terminus de l'autre. Il est impossible qu'elle n'ait pas pris ses précautions pour que l'ordre, à peine dérangé par l'intelligence, tende à se rétablir automatiquement. Par le fait, la fonction fabulatrice qui appartient à l'intelligence et qui n'est pourtant pas intelligence pure, a précisément cet objet. Son rôle est d'élaborer la religion dont nous avons traité jusqu'à présent, celle que nous appelons statique. Et nous dirions que c'est la religion naturelle si l'expression n'avait pris un autre sens. Nous n'avons donc qu'à nous résumer pour définir cette religion en termes précis. C'est une réaction défensive de la nature contre ce qu'il pourrait y avoir de déprimant pour l'individu et de dissolvant pour la société dans l'exercice de l'intelligence. Terminons par deux remarques pour prévenir deux malentendus. Quand nous disons qu'une des fonctions de la religion telle qu'elle a été voulue par la nature est de maintenir la vie sociale, nous n'entendons pas par là qu'il y ait solidarité entre cette religion et la morale. L'histoire témoigne du contraire. Péché a toujours été offenser la divinité. Mais il s'en faut que la divinité ait toujours pris l'offense de l'immoralité ou même du crime. Il lui est arrivé de les prescrire. Certes, l'humanité semble avoir souhaité, en général, que ces dieux fussent bons. Souvent, elle a mis les vertus sous leur invocation. Peut-être même la coïncidence que nous signalions entre la morale et la religion originelle, l'une et l'autre rudimentaire, a-t-elle laissé, au fond de l'âme humaine, le vague idéal d'une morale précise et d'une religion organisée qui s'appuieraient l'une sur l'autre. Il n'en est pas moins vrai que la morale s'est précisée à part, que les religions ont évolué à part, et que les hommes ont toujours reçu leur Dieu de la tradition sans leur demander d'exhiber un certificat de moralité ni de garantir l'ordre moral. Mais c'est qu'il faut distinguer entre les obligations sociales d'un caractère très général, sans lesquelles aucune vie en commun n'est possible, et le lien social particulier, concret, qui fait que les membres d'une certaine communauté sont attachés à sa conservation. Les premières se sont dégagées peu à peu du fond confus de coutumes que nous avons montré à l'origine. Elles s'en sont dégagées par voie de purification et de simplification, d'abstraction et de généralisation, pour donner une morale sociale. Mais ce qui lie les uns aux autres, les membres d'une société déterminée, c'est la tradition, le besoin, la volonté de défendre ce groupe contre d'autres groupes et de le mettre au-dessus de tout. À conserver, à resserrer ce lien, vise incontestablement la religion que nous avons trouvée naturelle. Elle est commune aux membres d'un groupe. Elle les associe intimement dans des rites et des cérémonies. Elle distingue le groupe des autres groupes. Elle garantit le succès de l'entreprise commune et assure contre le danger commun. Que la religion, telle qu'elle sort des mains de la nature, est accomplie à la fois, pour employer notre langage actuel. Les deux fonctions, morale et nationale, cela ne nous paraît pas douteux. Ces deux fonctions étaient nécessairement confondues, en effet, dans des sociétés rudimentaires où il n'y avait que des coutumes. Mais que les sociétés, en se développant, aient entraîné la religion dans la seconde direction, c'est ce que l'on comprendra sans peine si l'on se reporte à ce que nous venons d'exposer. On s'en fut convaincu tout de suite en considérant que les sociétés humaines, à l'extrémité d'une des grandes lignes de l'évolution biologique, font pendant aux sociétés animales les plus parfaites, situées à l'extrémité de l'autre grande ligne, et que la fonction fabulatrice, sans être un instinct, joue dans les sociétés humaines un rôle symétrique de celui de l'instinct dans les sociétés animales. Notre seconde remarque, dont nous pourrions nous dispenser après ce que nous avons tant de fois répété, concerne le sens que nous donnons à « l'intention de la nature », une expression dont nous avons usé en parlant de la religion naturelle. À vrai dire, il s'agissait moins de cette religion elle-même que de l'effet obtenu par elle. Il y a un élan de vie qui traverse la matière et qui en tire ce qui peut, quitte à se scinder en route. À l'extrémité des deux principales lignes d'évolution ainsi tracées se trouvent l'intelligence et l'instinct. Justement, parce que l'intelligence est une réussite, comme d'ailleurs l'instinct, elle ne peut pas être posée sans que l'accompagne une tendance à écarter ce qui l'empêcherait de produire son plein effet. Cette tendance, forme avec elle, comme avec tout ce que l'intelligence présuppose, un bloc indivisé, qui se divise, au regard de notre faculté, toute relative à notre intelligence elle-même, de percevoir et d'analyser. Revenons, encore une fois, sur ce qui a été dit de l'œil et de la vision. Il y a l'acte de voir, qui est simple, et il y a une infinité d'éléments et d'actions réciproques de ces éléments, les uns sur les autres, avec lesquels l'anatomiste et le physiologiste reconstituent l'acte simple. Éléments et actions expriment analytiquement et pour ainsi dire négativement, étant des résistances opposées à des résistances, l'acte indivisible, seul positif, que la nature a effectivement obtenu. Ainsi, les inquiétudes de l'homme jetées sur la terre et les tentations que l'individu peut avoir de se préférer lui-même à la communauté, inquiétudes et tentations qui sont le propre d'un être intelligent, se prêteraient à une énumération sans fin. Indéfinies en nombre aussi sont les formes de la superstition, ou plutôt de la religion statique qui résiste à ces résistances. Mais cette complication s'évanouit si l'on replace l'homme dans l'ensemble de la nature, si l'on considère que l'intelligence serait un obstacle à la sérénité qu'on trouve partout ailleurs, et que l'obstacle doit être surmonté, l'équilibre rétabli. Envisagé de ce point de vue, qui est celui de la genèse et non plus de l'analyse, tout ce que l'intelligence appliquée à la vie comportait d'agitation et de défaillance, avec tout ce que les religions y apportèrent d'apaisement, devient une chose simple. Perturbation et fabulation se compensent et s'annulent. À un Dieu qui regarderait d'en haut, le tout paraîtrait indivisible, comme la confiance des fleurs qui s'ouvrent au printemps.